France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nous accueillons aujourd'hui le pianiste Samson François, qui était invité au micro de Micheline Bonzet en novembre 1957. Dans cette archive, Samson François évoque les débuts de sa fulgurante carrière, rend hommage à Marguerite Long, dont il a suivi l'enseignement, et se remémore la toute première édition du concours Long-Thibaud, dont il fut en 1943 le premier lauréat.
Je voudrais d'abord remercier Samson François d'être venu ici passer un moment avec nous. Je ne vais pas vous présenter Samson François. Je crois que tous ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui rougiraient si j'osais dire qu'ils ne connaissent pas Samson François. Je ne vais pas vous dire quel âge il a, où il est né, comment il est, vous le connaissez très bien. Je vais lui passer la parole et je voudrais d'abord lui demander où il a commencé le piano, parce que je crois qu'il s'est beaucoup promené dans le monde entier déjà quand il était très jeune.
Je suis né à Francfort, oui, effectivement, parce que mon père était consul à Francfort sur le Main. Et j'ai commencé le piano en Italie, à Sanremo exactement. Et ce qui m'a d'ailleurs permis de donner mon premier concert à 6 ans, parce que j'avais eu la chance d'être présenté au maître Mascagni, vous savez, le compositeur de Cavalleria Rusticana, qui me voyant très jeune et lui étant assez âgé à ce moment-là, a trouvé drôle d'organiser un concert où j'ai joué un petit concerto de Mozart, vous savez, le petit concerto en la majeur, pas le grand que l'on joue généralement, mais le petit concertino.
C'était pas mal, le premier concert si jeune, mais est-ce qu'on peut vous demander pourquoi vous aviez commencé le piano? Simplement parce que vos parents aimaient bien la musique?
Non, mes parents n'étaient pas spécialement musiciens, ils aimaient beaucoup la musique, mais ils ne pensaient pas de moi faire de moi un pianiste. Simplement, paraît-il, ça je me souviens pas parce que ça remonte à 3 ans, j'avais 3 ans, il paraît que j'étais tout le temps, il y avait un piano chez nous, j'étais tout le temps au piano et que j'essayais de jouer, enfin de reproduire tout ce que j'entendais, enfin comme la plupart des enfants, je crois. Et que, j'ai manifesté une telle insistance, paraît-il, pour jouer à cet âge-là, que mon père, vers 5 ans, s'est décidé à me faire travailler le piano, mais sans penser d'ailleurs que je puisse faire une carrière dans l'avenir.
Alors simplement parce qu'on voyait que vous étiez doué, que ça vous amusait, on vous a donné un premier professeur qui était italien. Ce premier concert, vous aviez quand même très peu travaillé le piano quand vous avez été capable de jouer un concerto de Mozart. Alors vous travaillez depuis combien de temps? 2-3 ans?
Depuis un an, j'avais commencé à 5 ans.
À 5 ans, il y a 6 ans, vous jouiez déjà un concerto de Mozart.
Oui, et non seulement je jouais, mais je composais.
Ne le dites pas trop, vous allez décourager les jeunes pianistes et les jeunes compositeurs. Vous écriviez quoi?
Oh mon Dieu, des petites choses, évidemment, mais ça m'amusait beaucoup.
Vous gribouillez du papier comme ça, idée, simplement d'après ce qui vous passait dans la tête.
La première chose que j'ai écrite, je l'ai écrite tout simplement en do bémol majeur, en toute simplicité.
Alors très difficile à jouer, encore plus difficile.
Pas du tout, non, c'est très simple, j'avais envie de cette tonalité sans doute.
Vous trouviez que ça faisait peut-être assez difficile et assez riche de prendre...
Pas du tout, c'est tout à fait instinctif.
Instinctivement.
Absolument instinctif.
Alors après ce premier concert en présence de Mascagni, vous vous êtes encore beaucoup promené dans différents pays?
Eh bien nous avons été ensuite à Belgrade, Yougoslavie. Où j'ai fait le conservatoire d'ailleurs, j'ai eu un premier prix là-bas quand j'avais 7 ans.
Il y a en principe une assez bonne école, je crois.
Ah oui, excellente. J'avais un professeur qui était d'origine tchèque et que j'ai eu d'ailleurs le plaisir de retrouver lorsque je suis retourné à Yougoslavie il y a 2 ans pour la première fois.
C'était un professeur alors tout à fait de formation d'Europe centrale.
Ah oui, tout à fait, oui.
Et est-ce que vous trouvez qu'il vous avait donné une technique un peu particulière, justement, du fait qu'elle venait d'Europe centrale?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose, c'est que, étant donné que nous voyagions beaucoup, j'étais amené forcément à changer tout le temps de professeur.
Oui.
Et que chacun avait une technique différente, ce qui fait que, régulièrement, je recommençais depuis le commencement.
Est-ce qu'ils étaient, comme sont très souvent les professeurs de musique, enfin, je dis ça, ça a l'air méchant, ça ne l'est pas en réalité, chaque fois qu'ils vous voyaient, ils vous disaient, mon pauvre ami... Vous avez commencé avec un autre professeur, c'est pire que si vous n'aviez pas commencé du tout.
Bien sûr, évidemment.
Parce qu'il faut tout défaire et tout refaire.
Naturellement, sauf que ce professeur dont je vous parle à Belgrade, j'en ai gardé un excellent souvenir, car après chaque leçon, il m'emmenait dans toutes les pâtisseries de la ville.
Oh, ça, c'était plutôt agréable.
C'était très gentil.
Qu'est-ce qui vous faisait travailler alors un professeur comme ça à Belgrade vers les années, c'était quoi, passablement avant la guerre quand
même.
Oh,
c'était, je vous dis, j'avais 7 ans, donc c'était vers en 31, comme ça, 32.
En 31, oui. Alors il connaissait quand même toute la musique classique et le répertoire
bien
moderne
sûr,
aussi.
Oui. Ah oui, aussi, bien sûr. C'est lui qui m'a... Les premières œuvres de Bartok, enfin pas les grandes œuvres, mais les Les premières chansons, vous savez, que Bartok avait arrangées, il les connaissait lorsqu'elles étaient totalement inconnues ailleurs.
Même pas très connues à Paris.
Même pas très connues à Paris, absolument.
Et vous les faisiez jouer?
Il me les faisait jouer, oui.
Ça prouve son intelligence et son éclectisme aussi.
Sûrement.
Et alors, de Belgrade, vous êtes venu directement à Paris ou vous
Nous sommes retournés encore en Italie, où j'ai eu nombre de professeurs. Je veux dire, entre parenthèses, que je dois une grande reconnaissance à mon père parce que, étant donné qu'évidemment, j'étais amené à donner quelques concerts étant enfant, j'ai été sollicité bien des fois pour faire une carrière d'enfant prodige. Et c'est une chose qu'il a toujours absolument refusée. Et vraiment, je lui en garde une grande reconnaissance parce que ça m'a permis tout de même de travailler. Et en plus de ça, il interdisait que je joue des morceaux trop difficiles.
Ah,
ce qui est une chose... ce qui m'a fait le plus grand bien, il n'y a pas de doute.
Mais alors, qu'est-ce que vous appelez morceau trop difficile? Parce que ça, c'est encore une question qui peut se discuter.
En général, dans les jeunes élèves, quand ils sont un peu doués, on a tendance à vouloir forcer la nature et leur donner des choses de plus en plus difficiles, n'est-ce pas?
Au
point de vue technique, et même, par exemple, il a interdit que je joue des œuvres de Chopin jusqu'à l'âge de 12-13 ans, vous comprenez?
Ah oui.
Ce qui est une chose énorme, c'est parce que ça vous garde toute la fraîcheur de la découverte quand enfin on découvre, vous comprenez?
Et pourtant, il y a bien des débutants, il me semble, à qui on donne déjà des pages de Chopin, qui ne sont pas considérées très difficiles, alors c'est une erreur.
À mon avis, c'est une erreur, mais enfin, je dois dire que personnellement, je lui dois justement beaucoup de reconnaissance du fait qu'il n'a jamais voulu forcer sur ma nature, enfin.
Et alors, vous disiez qu'après ça, vous avez donc été en Italie. De là, vous avez encore voyagé ou vous êtes venu?
De là, nous avons encore voyagé. Nous sommes retournés en Autriche et finalement, retournés encore en Italie. Et finalement, je suis rentré au conservatoire de Nice.
Vous avez eu l'occasion d'entendre des tas d'artistes sûrement autour de tous ces voyages.
Bien sûr. Et alors, justement, là, j'ai eu la chance d'être présenté à Alfred Cortot. Et Cortot m'a fait venir à Paris, il m'a fait travailler auprès de lui.
À l'école normale, où il enseignait.
Et a tenu absolument, très gentiment, à me faire faire le conservatoire, ce qui m'a rendu le plus grand service.
Il estimait que c'était nécessaire de faire le conservatoire parce que son école est très renommée.
Absolument, dans la classe de Madame Long.
Et est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi il estimait qu'il était très nécessaire de passer par une école comme le conservatoire?
Eh bien, écoutez, je ne lui ai jamais posé la question, mais je crois pouvoir y répondre parce qu'il pense que tout de même, un enseignement officiel est absolument nécessaire, étant donné que ça vous donne une sorte d'entraînement. Ça ne vous donne peut-être pas un enseignement, je veux dire, complet, comme peut vous donner, mettons, une formation générale, mais ça vous donne un entraînement qui est absolument nécessaire. Ce que nous disions tout à l'heure, ce que les Américains appellent le training, n'est-ce pas? Ben, c'est exactement ça, le conservatoire a besoin de ça.
C'est une émulation qui, à votre avis, est donnée par les concours, les examens répétés, ce
sûrement, de sûrement, et puis le contact des élèves, n'est-ce pas? Le fait qu'on s'entend, enfin, souvent sur les mêmes morceaux, enfin, une émulation générale, ça n'y a pas de doute.
Je crois que vous y êtes passé très rapidement et très brillamment. Vous n'êtes resté que 2 ans dans les grandes classes, parce qu'on appelle les grandes classes.
Si je peux me permettre, comme vous.
Vous êtes bien indulgent, mais moi j'en suis restée là. Mais 2 ans, c'est le minimum, il me semble, autant que je me rappelle, qu'on pouvait passer à ce moment-là, puisqu'on n'avait pas le droit de concourir première année pour le prix.
C'est exact.
Alors vous êtes sorti en 40, un concours de guerre, enfin.
Un concours de guerre, presque clandestin en somme.
Presque clandestin, mais enfin on était bien contents quand même quand on avait décroché le prix, même bien que le concours n'était pas public cette année-là.
C'est exact, oui.
Il avait eu lieu, si je me souviens bien, en octobre à la rentrée.
En octobre à la rentrée.
Et alors après ça, vous avez commencé une carrière très rapidement, en somme.
Eh bien, n'est-ce pas, je vous dis, j'étais dans la classe de Madame Blond, à laquelle d'ailleurs je dois beaucoup de reconnaissance aussi pour l'enseignement qu'elle m'a donné, parce que je dois dire que lorsque je suis arrivé au conservatoire, je jouais terriblement ça, c'était effrayant, c'était très échevelé, mais
un peu dans tous les sens. Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs, parce que peut-être qu'ils ne savent pas très bien, ce que vous appelez jouer sale, en somme?
Jouer sale, mon Dieu, c'est ne pas jouer en place, en vérité, n'est-ce pas? C'est bousculer les traits, ne pas jouer les mains ensemble, brosser, enfin, ce qu'on appelle, vous savez, brosser les traits, enfin...
Escamoter les notes, en somme, escamoter.
Escamoter, c'est ça, oui, exactement.
Croyant que ça fait de l'effet.
Non, pas forcément en croyant que ça fait de l'effet, mais parce qu'on ne sait pas exactement en quoi consiste justement jouer en mesure, par exemple, n'est-ce pas?
Alors vous trouvez que Madame Long a eu le grand avantage de vous montrer que justement on pouvait être un très grand artiste en jouant propre, même c'était indispensable.
Absolument, et aussi en montrant qu'on pouvait jouer justement avec sentiment, tout en restant très, très simple dans son, dans sa manière d'interpréter.
Et que le métronome ne coupait pas l'inspiration.
Absolument.
Hein, ça. Au contraire, qu'il la servait plutôt.
Bien sûr.
Eh bien, avant que vous nous en disiez davantage, j'aimerais bien que nous nous arrêtions un instant là. On va faire une petite escale, là, au moment de votre premier prix de piano au conservatoire, pour vous entendre jouer. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'aimerais que nous écoutions un des scherzos que vous avez enregistré, je crois, assez dernièrement.
Oui, en effet, il y a 2 ans, oui.
Il y a 2 ans. Eh bien, voilà, alors, lequel vous préférez? Je crois que vous m'avez dit que c'était le 3e. Vous aviez un petit faible pour le 3e.
J'aime beaucoup le 3e.
Eh bien, nous allons écouter le 3e scherzo de Chopin, enregistré récemment par Sanson François. venons d'écouter, avec Samson François, le troisième scherzo de Chopin qu'il a enregistré avec trois autres scherzo de Chopin également assez récemment, il y a 2 ans. Nous nous étions arrêtés tout à l'heure dans cet entretien au moment où Samson François a quitté le conservatoire brillamment avec un premier prix, il sortait de la classe de Madame Lo. Alors maintenant, Samson François, j'aimerais que vous nous racontiez un peu ce que vous avez fait entre ce premier prix de conservatoire et le premier prix Marguerite Long-Jacques Thibault. Vous avez été le premier lauréat, je crois, du concours Marguerite
Long-Jacques Thibault. En effet, oui. Oui, c'est exact.
C'était en quelle année, ça?
Je dois dire d'ailleurs, entre parenthèses, que nous, justement, puisque vous disiez que j'étais sorti en 40, j'étais sorti avec Madame Long du conservatoire parce que nous sommes sortis ensemble. J'étais son dernier premier prix.
Alors je crois que ça a été également une sortie glorieuse. Il y a eu vous, il y a eu Madame Long et puis il y avait Rabault qui était directeur à ce moment-là, qui est parti aussi. C'était une sortie massive. Et alors à ce moment-là, vous avez uniquement donné des concerts pendant ces années?
Non, à ce moment-là, j'ai continué à travailler avec Madame Long et puis j'ai commencé à donner des concerts. Mon premier concert a été à Paris chez l'Amoureux avec sous la direction de Bigot.
Qu'est-ce que vous avez joué à ce moment-là?
J'ai joué le concerto mi bémol de Liszt.
Quelle impression ça vous a fait la première fois que vous avez joué avec orchestre?
Ça m'a fait le plus grand plaisir. je ne peux pas dire que j'ai eu le trac. D'abord, Bigot était tellement gentil pour moi. Je me souviens qu'il m'avait amené un calorifère de chez lui dans le foyer de la salle Pleyel parce qu'il y faisait tellement froid à ce moment-là. Vous savez, c'était pendant
la guerre.
Et non, tout s'est vraiment très bien passé. Je garde de ce concert un très bon souvenir.
C'était probablement salle Pleyel à ce moment-là.
C'était salle Pleyel, oui, c'était Pleyel. Oui.
Et vous êtes revenu sûrement très souvent salle Pleyel depuis.
Naturellement.
Pour y remporter des véritables triomphes.
Bien.
Et alors après ça, vous avez préparé ce concours Marguerite Long-Jacques Thibault dont le programme est très chargé, je crois. Il faut
oui.
un vrai répertoire.
Il était moins chargé à cette époque-là que maintenant, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas de concerto avec orchestre, par exemple.
Ah non.
Mais ça se passait en 2 jours. Le premier jour, c'était des sonates, une grande sonate au choix, soit de Beethoven, soit de Weber, soit de Schubert. Et j'avais choisi en toute simplicité la Passionata.
Oui.
Le deuxième jour, on avait une œuvre romantique au choix. Et le choix était naturellement délimité entre les ballades de Chopin, le carnaval de Schumann, etc. J'avais choisi la première ballade. Oui. Et on avait le choix entre une étude de transcendante de Liszt et une étude de Chopin. Et j'avais choisi la 23e étude, vous savez, en la mineure.
Oui.
Et... pour dernière chose, on avait le choix dans un morceau moderne. Et pour ce morceau moderne, j'avais choisi une transcription assez extraordinaire qui a été faite par un pianiste irlandais de Fête de Debussy.
Ah,
vous savez,
oui.
le
Fête
qui fait
des
partie
images,
des nocturnes.
Crois,
non, des nocturnes, des nocturnes pour orchestre, n'est-ce pas? Et la transcription est absolument ébouriffante. Et je dois dire, je l'ai beaucoup joué à ce moment-là, je ne l'ai plus rejoué depuis, et je me promets de le rejouer cette année.
C'est curieux d'avoir choisi ça, au fond, plutôt que de prendre un Debussy authentique. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi ça? Parce que c'était spécialement brillant?
Oui, parce que c'était un morceau brillant. Il fallait un morceau brillant, n'est-ce pas? Et je dois dire que j'étais tellement séduit par la perfection de la transcription que j'ai trouvé amusant de jouer cette œuvre qui, en somme, est très peu connue.
Alors, dans le jury, à ce moment-là, c'était peut-être moins cosmopolite que maintenant, parce
les
portes étaient fermées à
bien
ce moment-là.
Bien sûr, c'était la guerre.
Il y avait un jury presque exclusivement français.
Ah, presque exclusivement français,
quelques
oui,
Belges, peut-être, qui avaient pu venir.
C'est ça, oui, exactement. C'était quelques Suisses, je crois.
Et les candidats étaient naturellement aussi, pour la plupart français.
La plupart français, ou Belges, ou Suisses, mais enfin, il n'y avait pas de...
Est-ce que vous vous rappelez en quelle année c'était?
Il n'y avait forcément pas de Russes à ce moment-là.
Est-ce que vous vous souvenez un peu en quelle année c'était?
En 43.
En 43.
En 43, oui, oui.
C'est
en
ça, 3 ans après votre premier prix.
3 ans après mon prix, oui.
Alors ça a été un triomphe, et alors là, le départ vraiment de votre carrière internationale très vite après. Depuis, vous avez donc beaucoup joué. Nous allons faire une autre petite étape, si ça ne vous ennuie pas. Donc au prix Marguerite Long-Jacques Thibault, et nous pourrions écouter une autre œuvre de Chopin, par exemple la Nocturne, si ça ne vous ennuie pas.
Si vous voulez.
Qui sera très différent comme caractère d'un scherzo. Je crois que vous avez enregistré le 4e nocturne dans un récital Chopin.
C'est exact.
Où il y a des valses.
Des valses, des études, la sonate funèbre.
Oui.
Et la polonaise de l'Andante Spianato, opus 22.
C'est cela. Et bien, malheureusement, nous ne pouvons pas les écouter tous en ce moment, mais nos auditeurs peuvent toujours se procurer cet enregistrement facilement puisqu'il est dans le commerce. Alors voici le 4e nocturne de Chopin, interprété par Samson François.
Thank you.
Nous venons d'écouter le 4e nocturne de Chopin, enregistré par Samson François. Puisque Samson François est avec nous, j'aimerais vous demander, Samson François, si vous vous souvenez de votre premier enregistrement de disque. Ça se situe à quel moment?
Eh bien, j'ai différents souvenirs de premiers enregistrements, en vérité, parce que les premiers enregistrements que j'ai faits, c'était encore pour les 78 tours. Ça se passait au studio Albert, vous savez, dans ce quartier de la Porte d'Ivry. Au milieu d'une rue d'ailleurs assez fleurie, c'était assez extraordinaire, et de petites fabriques, comme on en faisait autrefois.
C'était pendant la guerre?
Et c'était pendant la guerre, effectivement, mais enfin, à ce moment-là, ces enregistrements ne sont pas sortis, étant donné la mauvaise qualité du matériel que l'on avait. C'était tout à fait à la fin de la guerre. Et nous avons repris ces enregistrements en 1947, c'est là où j'ai enregistré Scarbo, notamment, pour la première fois, en 78 tours. Et c'était assez extraordinaire comme atmosphère, parce qu'on jouait dans une sorte de hangar, il y avait de la terre battue. Ça avait d'ailleurs une excellente acoustique, mais je crois que Paty a dû renoncer à ce studio à cause de la proximité d'une usine électrique qui faisait un bruit épouvantable.
qui passait plus ou moins dans le disque à ce moment-là.
Alors ça a été mon premier enregistrement. Et puis là-dessus, je suis parti en Amérique assez longtemps. Et je n'ai recommencé que quelques années plus tard, au moment où la technique du micro-sillon a commencé à être mise au point. Et le premier enregistrement que j'ai fait, ça a été le récital Chopin, qui a eu le Grand Prix, vous savez, il y a quelques années.
C'est ça.
Et je dois dire que plus j'ai connu la technique d'enregistrement, plus ça m'a passionné, parce que c'est vraiment une découverte. Enfin, comment est-ce que je peux vous expliquer le sentiment que j'ai d'enregistrement? C'est-à-dire, voilà, exactement, on finit par avoir le sens plastique de la musique, beaucoup plus que même que dans un concert. C'est-à-dire que, enfin, la conception que l'on a d'une interprétation, on arrive à la réaliser d'une manière en dur, si vous voulez.
Oui.
Comprenez-vous?
Oui.
Et ça, c'est un aspect passionnant de l'enregistrement.
Et vous trouvez que ça ne fige pas quand même l'interprétation? Quand vous vous entendez en disque, vous reconnaissez exactement ce que vous avez l'impression d'entendre quand vous jouez.
C'est-à-dire, quand j'entends un disque dont je suis content, j'ai l'impression que ce que j'ai cherché est réalisé.
Oui. Et j'aimerais que vous disiez à nos auditeurs quelle impression ça vous fait. Est-ce que c'est très différent de jouer devant une salle, avec un public vraiment vivant, et de jouer dans un studio qui est beaucoup plus étouffé d'abord comme sonorité, et puis il n'y a personne là?
Non, vous savez, je crois que là, c'est une manière de sentir que je comprends que certains artistes peuvent avoir, mais moi, c'est parce qu'ils considèrent le micro à ce moment-là comme un ennemi, un peu.
Oui.
Comprenez-vous? À partir du moment où vous le considérez un peu comme une personne, vous comprenez, c'est tout à fait différent. Il faut tout de même lui parler.
Alors vous trouvez que quand vous êtes dans un studio tout seul, en somme, vous avez l'impression que vous avez quelqu'un qui est là et qui vous écoute.
Oui, maintenant je veux vous dire, mais mon sentiment est purement personnel, parce que lorsque je joue dans un concert, le public, je ne m'en aperçois que lorsque j'ai fini de jouer.
Ah,
c'est
oui.
Un peu comme si tout d'un coup je jouais chez moi et que j'ai des amis qui rentrent et que je m'aperçois qu'il y a du monde et que je leur dise bonjour. Vous comprenez, c'est un peu ce sentiment.
Oui, parfaitement. Alors en somme, quand vous jouez dans un studio, quand vous jouez dans une salle, vous jouez toujours en somme plutôt pour vous et ça ne fait pas grande différence.
Ça ne fait pas une très grande différence.
Pas une très grande différence.
Sauf que lorsque je ne suis pas content de ce que je fais, eh bien, je peux le recommencer en studio, tandis que je ne peux pas le recommencer dans un concert.
Dans un concert, oui. Ça évidemment. Seulement d'un autre côté, en concert, vous ne le réentendez pas pareil.
Ah, c'est exact.
Un grand nombre de fois, alors ça s'oublie. Tandis qu'en disque, la faute reste, c'est ça qui est grave. Je crois qu'un de vos derniers enregistrements, c'était les Mazurkas de Chopin.
Ah oui, oui, oui.
Vous avez enregistré toutes les Mazurkas.
Toutes les Mazurkas, oui, oui.
Tout dernièrement.
Oh, il y a 6 mois à peu près, oui.
Est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs combien il y en a? Je ne me souviens pas exactement. Oh,
écoutez,
c'est considérable.
Vous me posez une colle, là, mais je pense qu'il y en a 51.
51?
Je crois.
Ça vous a représenté des années de travail de mettre ça au point ou bien...
Eh bien, vous savez, les mazurkas, ce n'est pas une œuvre que l'on travaille à proprement dire. On les porte en soi.
Oui, mais il faut quand même les assimiler, je pense, parce qu'il y a une...
Oui, justement, on les porte en soi pendant longtemps avant de les jouer, mais parce que je ne crois pas qu'il faut s'obnubiler sur le côté rythmique de la danse, qui existe, évidemment. Mais les mazurkas sont avant tout, pour moi, des chansons.
Ah oui, presque des chants populaires.
C'est presque des chants populaires, oui.
Alors il faut les savoir par cœur, comme on saurait
française. C'est ça, il faut presque pouvoir mettre des paroles dessus, vous comprenez?
Et à ce moment-là, on les joue naturellement et on retrouve un
crois,
peu leur esprit.
Je crois.
Et bien, voici donc quelques-unes des mazurkas que Samson François vient d'enregistrer. Nous venons d'écouter, malheureusement seulement, très peu de l'enregistrement intégral des mazurkas de Chopin par Sanson François. Et maintenant, pour couronner ce programme Chopin, je voudrais que nous écoutions avec Sanson François son enregistrement du concerto en mi mineur. Sanson François, vous avez dû jouer très très souvent cette œuvre.
Oh oui, très souvent. D'ailleurs, c'est un des concertos que je préfère. Vraiment.
Que vous préférez?
Ah oui, sûrement.
Donc c'est un plaisir pour vous de le jouer très souvent.
Un concerto de... Un peu de prima donna, si vous voulez, mais je l'aime énormément.
Est-ce que vous vous souvenez quand vous l'avez joué pour la première fois et où avec
Eh bien, je l'ai joué la première fois à Alger, où j'avais donné 3 concertos avec l'Orchestre de Radio Algérie. Et je l'ai joué un peu de partout. Je l'ai joué en Russie aussi, je l'ai joué en Amérique. Je l'ai même joué une fois avec un orchestre de noirs, figurez-vous, à la Jamaïque. C'était une chose extraordinaire. Et qui ont, je dois dire, admirablement joué.
Admirablement joué ça. Et est-ce que vous avez trouvé pour ce concerto le même accueil un peu partout? C'est quand même une œuvre d'accès assez facile et brillante.
Oui, oui, oui. Oh, mais je crois que vous savez que l'accueil du public en général est à peu près le même partout. Ça tout dépend de l'artiste. Tout dépend, je veux dire, de la disposition de l'artiste.
De la disposition,
oui,
de l'artiste.
Absolument.
Mais vous estimez que si vous jouez de la même manière à New York, à la Jamaïque, à Moscou, à Paris, vous trouvez à peu près le même succès, le même intérêt.
À peu près, sûrement, oui, sûrement.
Ce soir, nous n'avons pas assez de temps pour parler de tous vos voyages, justement de tous les publics que vous avez pu trouver. Et ce soir, nous allons donc écouter ce concerto en mi mineur de Chopin.
Thank you.
Les deux derniers mouvements du concerto en si mineur de Frédéric Chopin, interprété par Samson François, refermaient l'extrait de cet entretien que Micheline Banzet avait enregistré avec le pianiste en novembre 1957. La réécoute et le podcast de cette archive sont disponibles sur le site francemusique.fr, sur la page des Trésors de France Musique. Nous étions en compagnie de Béatrice Trichet pour la réalisation, avec Maïwenn Lejehan pour la prise de son, en collaboration avec les documentalistes de l'INA.
À réécouter sur francemusique.fr.